Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'heure de vérité approche pour les partenaires sociaux en France. Les syndicats de salariés et de patrons se sont retrouvés aujourd'hui pour une nouvelle séance de négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Sous le regard sourcilleux du gouvernement, un sujet épineux parce que le système est en déficit et que l'exécutif demande plus d'un milliard d'économies par an, et donc il va falloir les trouver. L'hypothèse d'un bonus-malus sur les cotisations sociales pour les entreprises qui usent et peut-être abusent des contrats courts est rejetée par les patrons. Les syndicats veulent réduire la précarité. Qui va perdre? Qui va gagner dans la réforme de l'assurance chômage? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Bruno Coquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur affilié à l'OFCE et spécialiste de l'UNEDIC et auteur de Un avenir pour l'emploi, c'est aux éditions Odile Jacob. Et Hervé Chaperon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur général adjoint de Pôle emploi, vice-président du Cercle de recherche et d'analyse sur l'avenir de la protection sociale, c'est le CRAPS, et auteur de Pôle emploi, autopsie d'un naufrage aux éditions de L'Opportun, et Emploi, tout va très bien, Madame la Marquise, aux éditions d'Ossis. La négociation sur la réforme de l'assurance chômage n'est pas un long fleuve tranquille. Entre le président de la République qui met la pression sur le bonus-malus, le patronat qui quitte les discussions avant de revenir après avoir été rassuré par le Premier ministre, pourquoi est-ce que c'est si compliqué, Bruno Coquet ?
C'est compliqué parce que le sujet, d'abord, est compliqué, qu'il y a beaucoup d'enjeux autour et que beaucoup de gens ont des idées. Bon, alors c'est comme les centrales nucléaires, vous savez, c'est très compliqué. Hein. Donc déjà, il y a de la technique, alors on l'oublie, hein, souvent on pense que c'est facile de régler les problèmes de l'assurance chômage, qu'il y a des emplois, qu'il y a des emplois non pourvus et que donc les chômeurs pourraient les reprendre. Donc c'est assez simple, diminuons les indemnités, les chômeurs reprendront les emplois. La réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Hein, c'est d'abord l'assurance chômage, c'est un système où les employeurs comme les salariés sont assurés. Ils payent des cotisations pour s'assurer contre un risque, le risque de chômage. Ce risque est fréquent parce que même si le taux de chômage baisse en ce moment, malgré tout, il y a beaucoup de chômeurs.
8,8% au dernier trimestre de 2018.
Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, ça fait encore beaucoup de chômeurs indemnisés, à peu près 2 700 000. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'enjeux financiers. C'est près de 40 milliards d'euros de dépenses chaque année en ce moment. Hein, et donc, du coup, beaucoup de besoins, beaucoup de chômeurs. Et par ailleurs, effectivement, effectivement, une gestion budgétaire qui pourrait s'améliorer. Voilà.
C'est une usine à gaz, cette façon de négocier entre syndicats, patronat, avec le gouvernement qui regarde ça en disant attention, si vous faites pas les choses comme il faut, je vais reprendre la main. Hervé Chaperon.
Alors, vous appelez ça une négociation, moi j'appelle ça autrement. Mais certainement pas une négociation. Négocier lorsque vous avez reçu une note de cadrage. Négocier quand on vous dit il faut faire ça, c'est-à-dire un milliard, vous l'avez rappelé, un milliard d'euros par an d'économie minimum. Quand vous avez la pression gouvernementale, quasiment toutes les semaines, la ministre du Travail vous dit de toute façon, si vous vous mettez pas d'accord, voilà ce qu'on fera. Bon, ça fait un peu, alors je vais reprendre le terme négociation, un peu bourgeois de Calais. On a déjà la corde autour du cou et le stylo est particulièrement armé. Et puis, c'est, pour reprendre ce que disait Bruno Coquet, c'est au-delà du compliqué, c'est complexe. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de dupes. L'État profite honteusement de l'assurance chômage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dès le premier choc pétrolier en 1974, l'assurance chômage a été quasiment érigée en vache sacrée. Et au fil du temps, elle est devenue une vache à lait. Vous voulez quelques exemples ?
Allez-y.
L'État finance, finance trois quarts du budget de Pôle emploi par l'UNEDIC. Est-ce normal ? L'État demande à l'UNEDIC de payer ARGIC-ARCO toutes les cotisations des allocataires. Les intermittents du spectacle, le récent ministre de la Culture a dit on n'y touche pas, c'est un milliard. Sauf que, seuls les salariés cotisent, que les fonctionnaires ne cotisent pas, que les parlementaires ne cotisent pas, que les professions libérales ne cotisent pas. Et comme chacun sait, c'est évidemment la salariée caissière au supermarché qui va à l'opéra, et certainement pas le professeur d'histoire, le juge d'instruction et autres. Et avec tout ça, on vous dit, il y a un déficit, c'est terrible, c'est parce qu'il gère mal.
Bruno Coquet, on revient sur cette lettre de cadrage envoyée par le gouvernement aux partenaires sociaux. Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'il n'y a pas des injonctions contradictoires là-dedans? Est-ce que finalement, le gouvernement, comme le laisse entendre Hervé Chaperon, souhaite reprendre la main sur cette négociation en pariant sur son échec?
Je suis pas dans les stratégies à trois bandes. Le point, c'est que est-ce qu'on peut faire 1 milliard d'économies par an? Oui. On a beaucoup de déperditions dans le système. Le point, c'est de savoir d'où on part. D'ailleurs, la lettre de cadrage, tout le monde l'oublie, mais elle commence par un appel à des réformes systémiques. Systémiques. Ça ne veut pas dire paramétriques, justement. Ça veut dire on réfléchit stratégiquement.
Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'on bouge les taux, on cherche à savoir où on va aller.
On veut des changements structurels. Donc, la première chose, quand vous gérez 40 milliards d'euros, c'est Saint-Gobain, c'est Bouygues, etc., regardez leur comptabilité. Regardez leur comptabilité analytique. À l'UNEDIC, il n'y a pas de comptabilité. On ne sait pas combien coûte quoi.
C'est une boîte noire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui. Oui, il y a très 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 peu de chiffres. Et donc du coup, le problème, c'est que les partenaires sociaux ont des intérêts divergents et d'autres convergents, mais s'ils n'ont pas la même base de travail bien claire, des indicateurs de suivi de l'activité, qu'est-ce qui coûte cher, ils vont pas y arriver. La première chose, je reprends ce que Monsieur Chaperon disait, c'est que depuis 25 ans, dans le droit commun de l'assurance chômage, celui dont il s'agit de changer les règles, les cotisations sont supérieures aux prestations, tous les ans depuis 25 ans, y compris depuis le début de la crise. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'assurance chômage est excédentaire. Le point, c'est l'UNEDIC est déficitaire, c'est vrai, et a une dette. Mais pourquoi l'UNEDIC est déficitaire? Alors, M. Chaperon a cité des exemples. Le financement de Pôle emploi, on ne nie pas qu'il y a besoin de Pôle emploi et qu'il faut le financer, mais la théorie économique raconte bien que c'est un service public et qu'un service public doit être financé par l'impôt, pas par les cotisations des salariés du secteur privé. Il a cité aussi les intermittents du spectacle, on peut citer les frontaliers, etc. On a tout un tas de politiques publiques, en fait, qui sont financées par l'assurance chômage. Le problème, après, c'est quand vous constatez qu'il y a un déficit et une dette, et que vous dites, ah ben oui, mais c'est parce que les droits sont trop généreux, regardez, l'assurance chômage est déficitaire. Sauf que l'assurance, l'activité d'assurance, hein, cotisation-prestation, elle est excédentaire. Mais c'est ça qu'on va réduire pour préserver le reste. Et donc, du coup, là, il y a un enjeu systémique, et cet enjeu systémique, il n'est pas bien posé par les partenaires sociaux, à mon sens, qui, du coup, ont tendance à se disputer sur des sujets à la marge.
Voilà. Alors, est-ce que l'idée du bonus-malus sur les cotisations sociales, c'est un de ces sujets à la marge? C'est l'une des principales questions qui est posée par le gouvernement. Emmanuel Macron a insisté pour qu'on étudie cette question. C'est quoi exactement ce bonus-malus sur les cotisations sociales, Hervé Chaperon?
Écoutez, déjà, on va citer quelques chiffres. C'est grosso modo, pour ce qui concerne ces contrats, un encaissement de cotisation de 2,6 milliards et un décaissement de 8,5 milliards. Alors, comme disait Bruno Coquet, il n'y a pas une comptabilité analytique. On va retenir l'ordre de grandeur, c'est 5-6 milliards qui disparaissent. Moi, je pense que ce n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on entend tous les jours. Et je pense que c'est un jeu de dupes. C'est l'os à ronger à la marge pour les partenaires sociaux. On sait très bien qu'ils ne vont pas s'entendre. On sait très bien que le MEDEF, depuis que le président du MEDEF a été élu contre l'UMM par la Fédération des assurances, dont Denis Kessler est grand Manitou, celui-là même qui veut détricoter le programme social du CNR et donc ne veut plus du paritarisme, on met devant un sujet où il est effectivement, alors, usine à gaz, qui coûte de l'argent, où évidemment les deux parties ne peuvent pas se mettre d'accord. C'est-à-dire que c'est gentiment explosif, mais on en a vu d'autres, je dirais. On sait, depuis 1958, les partenaires sociaux se sont toujours mis d'accord. Mais là, on sait que, je reprends l'expression, on joue au billard à quatre bandes. Je ne suis pas convaincu qu'il est intéressant pour le MEDEF aujourd'hui, dans les forces en présence entre fédérations, de rester dans ce paritarisme qui fait vieux, qui est de l'ancien monde, et que le politique aujourd'hui, le gouvernemental, depuis une dizaine d'années, ne veut plus de corps intermédiaire. Donc, pour moi, certes, il y a un déficit sur les contrats courts, certes, c'est complexe, mais c'est très intéressant parce que politiquement, on va réaliser ce qu'on aurait aimé réaliser précédemment, mais qu'on n'a jamais osé faire.
Le bonus-malus, c'est ça? Oui.
Allez, alors, sur le bonus-malus, c'est très important. On est chez un assureur. Un assureur doit lutter contre ce qui lui coûte cher. Donc, pas des sinistres qui arrivent de manière aléatoire, quand il y a des cycles d'activité, il y a des chômeurs, etc. Ça, en revanche, lorsque des employeurs ou des secteurs d'activité organisent leur production, de manière à répondre, par exemple, juste à temps aux clients qui sont là parce qu'ils veulent leur cabriolet au mois de mai avant de partir en vacances. Bon. Est-ce que c'est à l'assurance de chômage de payer le fait que les ouvriers ne vont pas travailler du mois d'août jusqu'au mois de février? Non, c'est aux clients qui achètent le cabriolet. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, pour beaucoup de secteurs d'activité, l'hôtellerie, le café-restaurant, enfin bon, certaines branches d'industrie, etc. Le spectacle aussi, etc.
Les médias, faut le dire.
Le point, c'est que on a, d'une certaine manière, une organisation de la production qui crée du chômage. Celle-là, elle doit être facturée par l'assureur. Via le bonus-malus, comme le dit le gouvernement, évidemment, il faut réfléchir à tarifer les contrats courts. Le problème n'est pas d'augmenter le taux de prélèvement obligatoire. Le problème, il est qu'aujourd'hui, à peu près 80% des entreprises payent en n'utilisant pas ces contrats courts pour les 20% qui les utilisent. C'est ça le problème, c'est la subvention croisée, comme on dit. Et donc, du coup, le bonus-malus, c'est cette idée-là, c'est limiter cette subvention croisée qui favorise les contrats les plus précaires.
Hervé Chaperon.
Oui, ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que on arrive à une situation où on a 48% de chômeurs de longue durée. Le chômage baisse, mais le chômage de longue durée augmente. C'est dramatique. C'est dramatique. Tout le monde sait bien que le chômage de longue durée, à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus employable. Et la question qu'on peut quand même se poser, c'est quel que soit le coût, il vaut mieux payer cher, mais que des gens restent dans le monde du travail et qui seraient en symbiose avec le discours politique qu'on entend « priorité au travail », que de les éloigner petit à petit, d'une façon invisible, hors de la sphère du travail.
La solution qui est proposée par le patronat, aux dernières nouvelles, c'est d'augmenter ce qui existe déjà, c'est-à-dire les primes de précarité pour les chômeurs qui signent des CDD successifs. Pourquoi est-ce que le patronat ne veut pas de ce bonus-malus? Parce que finalement, avec sa proposition, sa note augmente de toute façon, Bruno Coquet.
Le point, c'est un problème d'arbitrage. Est-ce qu'elle augmente plus comme ça que pas? Bon, les employeurs préfèrent collectivement payer un taux de cotisation supérieur que de répartir, en fonction des comportements des uns ou des autres, le taux de cotisation à l'assurance chômage. On peut considérer que c'est un peu absurde, mais bon, c'est un état de fait. Alors après, ils proposent une prime de précarité sur les contrats. Ce qu'on observe, c'est que la prime de précarité sur les CDD n'a pas empêché le développement des CDD. Ils ont été multipliés par deux en 20 ans.
80% des nouveaux emplois, c'est du CDD, c'est du contrat court,
actuellement. Oui, absolument. Oui, bien sûr. Mais le point, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi faire autrement? C'est ça la question. C'est plus intéressant, alors, vous êtes flexible, vous n'en subissez pas le coût, etc. Un employeur, aujourd'hui, logiquement, il doit faire comme ça.
Donc le but, ce n'est pas de combattre la précarité ou de la faire reculer, c'est bien de l'accepter, de l'encadrer, de l'organiser, Hervé Chaperon?
Oui, et puis alors, y a quand même un argument massu. C'est que quand vous regardez les prévisions financières de l'UNEDIC, sur l'exercice 2019, fin d'année, ça sera proche de l'équilibre. Dès 2020, il est prévu 1,6 milliard d'excédent, je ne vais pas dire de bénéfice, encore que le mot assurance pourrait me le permettre, et puis on va partir vers une bonne fortune. Donc, je reviens à ce que je disais. Certes, il y a à l'instant T ce soir certainement un problème financier, certainement un problème comptable et autres, mais il y a des arrière-pensées politiques qui me font dire que on ne nous dit pas tout.
Bruno Coquet, est-ce que, et je pose la question en fait qui est celle de l'émission, hein, ça, qui va gagner, qui va perdre dans cette affaire, est-ce que les chômeurs risquent de voir leurs prestations baisser après cette négociation?
C'est comme ça que ça se passe depuis très longtemps. Donc les économies qu'on réalise, puisque il faut quand même rappeler que chaque convention d'assurance chômage depuis très 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 longtemps dégage des économies. Aucune convention n'a donné des droits supplémentaires. La question, elle est de savoir si ces économies sont dégagées au bon endroit. Donc si elles sont dégagées au mauvais endroit, que ce soit pour les employeurs ou pour les salariés, ben, on va avoir des perdants. Or, il se trouve que dans le passé, ça a été un petit peu le cas. Ces économies sont réalisées au bon endroit, par exemple, si vous faites des économies sur les frontaliers, 700 millions d'euros aujourd'hui, c'est à peu près l'ordre de grandeur de ce que demande le gouvernement comme économie. Les partenaires sociaux n'ont jamais signé l'accord européen sur les frontaliers. Donc pourquoi le faire payer à l'UNEDIC? Parce que, en gros, le salaire est deux fois plus élevé en Suisse qu'en France, et donc du coup, quand les gens sont au chômage en France, ils sont payés sur la base de leur salaire suisse. Donc du coup, il y a une aberration.
Il y a un régime particulier.
Donc le point, c'est que pour ça, il faut faire de la comptabilité, c'est-à-dire aller voir les poches où vous payez et où vous ne devriez pas payer ou payer moins, pour éviter d'aller taper dans le droit commun des gens qui contribuent beaucoup et qui bénéficient finalement peu pour beaucoup d'entre eux.
Et qui bénéficieront moins puisque il va y avoir l'éligibilité des démissionnaires et il va y avoir l'éligibilité des professions libérales, alors, des indépendants, disons.
Donc on va
se retrouver avec un nombre de personnes beaucoup plus important en termes d'éligibilité et donc certainement beaucoup plus d'allocations à payer. Or, il y a les contraintes budgétaires.
Et donc, dans tous les cas de figure, chômeurs de longue durée, chômeurs en activité réduite, frontaliers, je ne sais pas, qui va être le plus touché par cette réforme? Qui est-ce qu'on va choisir? À qui on va baisser ces
cotisations? Le point, c'est qu'on ne le sait pas pour le moment. La négociation est suffisamment fermée pour savoir est-ce qu'on va toucher le taux de remplacement, ce qui est normalement, si on regarde techniquement l'assurance, on devrait toucher le taux de remplacement, mais le problème c'est plutôt des bas salaires, donc c'est un problème politique important. Et puis en termes de pauvreté également.
Surtout dans les circonstances, le contexte actuel.
Oui, mais est-ce que c'est à l'assurance chômage de payer pour la pauvreté sur la base de cotisations prélevées sur le coût du travail marchand? Non. Économiquement, c'est pas le bon circuit.
Et ceux qui ne perdront pas, ce sont les intermittents du spectacle, parce que le ministre de la Culture a dit on n'y touche pas, et c'est ceux qui coûtent le plus cher.
C'est exclu de la négociation.
Voilà. Et puis après, on a des choses très techniques, mais le calcul du salaire journalier de référence, aujourd'hui, c'est quand même un gros problème. Et donc, du coup, si on touche pas ces règles qui sont sensibles, effectivement, parce qu'elles vont appauvrir un nombre... Il faudrait les revoir, mais elles risquent d'appauvrir des chômeurs. Et bien, du coup, on va toucher à des règles qui, elles, ne devraient pas être revues, mais qui vont toucher des chômeurs qui, du coup, vont être désincités. Enfin, c'est sous-optimal, comme on dit en économie. Si vous touchez pas les règles optimales, vous êtes obligé de toucher des règles sous-optimales, et donc dans le mauvais sens. Et donc, c'est ça un peu le risque, sachant qu'on sait pas où tout ça va se poser pour le moment.
Hervé Chaperon, quelques secondes, qui va être impacté le plus?
Écoutez, je pense que ça va être très vraisemblablement les jeunes, parce qu'il y a des rumeurs, entre guillemets, ça va être le temps d'affiliation qui va augmenter pour que vous puissiez toucher votre allocation en cas de perte d'emploi.
Les seniors, merci, et les cadres. Merci Hervé Chaperon, merci Bruno Coquet d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage, à la coordination Simon Carteret, à la documentation et à la réalisation aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous podcaster sur nos environnements numériques. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.